think it's beneficial to the nurses who are providing this kind of care as well. It's
il est très facile de se décourager au travail quand vous avez l'impression que tout ce que vous faites, c'est le minimum et que vous travaillez mécaniquement. Bien sûr, vous fournissez les soins requis, mais quand vous adoptez les soins fondés sur les forces, vous rejoignez les gens à un niveau humain et vous pouvez vraiment ressentir qui ils sont, connaître leur contexte social. En apprenant à les connaître, vous leur permettez d'exprimer leurs propres forces et vous les voyez se développer, croître et toucher à la guérison. Et en soins palliatifs, on a beaucoup de chance parce qu'il est très difficile pour nous de faire le lien entre la guérison et le traitement, ce qui est bien souvent le cas dans d'autres unités. Nous savons qu'il n'y a pas de traitement. On peut traiter les symptômes, on peut traiter le stress parfois, mais on se concentre d'abord et avant tout sur la guérison, mais d'une façon très différente. Et cela peut donner beaucoup de valeur à notre travail, beaucoup de fierté, et on a vraiment un sentiment d'accomplissement.
Ah, j'aimerais ça avoir. Okay. Okay. Bonjour. Alors, my name is Hélène Racine.
Je suis Hélène Racine. Nous sommes prêtes à reprendre. Comme je vous l'ai dit, je suis Hélène Racine, directrice des soins infirmiers et co-directeur de la qualité à l'Institut de l'Université Douglas en santé mentale. Au nom de cet institut universitaire en santé mentale Douglas, je vous remercie de vous être joint à nous pour parler des soins infirmiers fondés sur les forces. Nous sommes particulièrement fiers d'être les co-hôtes de cet événement aujourd'hui. Sur les soins infirmiers fondés sur les forces dans la pratique en éducation dans un contexte de leadership, parce que nous croyons fermement que tout cela fait partie intégrante du processus de rétablissement pour les patients souffrant de maladies mentales et pour leurs familles. En fait, c'est au cœur de la pratique infirmière que de faire la promotion de la santé physique et mentale dans la population en général. Avant de vous présenter nos trois panélistes aujourd'hui qui vont explorer différentes facettes des soins infirmiers fondés sur les forces, j'aimerais remercier les conférenciers de ce matin, Dr. Laurie Gottlieb et Dr. Patricia Benner. Merci pour leur travail de pionnier en matière de soins infirmiers fondés sur les forces. Leur travail et leurs travaux nous ont inspirés, non seulement pour être de meilleures infirmières, de meilleurs leaders, mais aussi pour être simplement de meilleurs êtres humains. Je voudrais aussi profiter de cette occasion unique pour souligner les progrès accomplis dans le domaine des soins infirmiers en santé mentale. L'Institut Douglas est devenu un membre important du secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone. Il s'agit d'une ONG internationale dont la mission est de partager son expertise et ses connaissances pour contribuer au développement de la santé et améliorer la qualité des soins dans le monde francophone international. Sur cette note internationale, j'aimerais souligner la présence de Judith Shamian, qui a gentiment accepté d'être présidente du Conseil international des infirmières. Au nom de Lynn McVeigh, PDG de l'Institut Douglas, nous aimerions vous féliciter, Madame Shamian, pour cet accomplissement fantastique en matière de leadership international en soins infirmiers. Maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos panélistes Sophie Baillargeon, David Wright et Catherine Oliver. Sophie Baillargeon, qu'on connaît bien, est adjointe à la directrice des soins infirmiers au CUSUM. Elle nous présentera Céline Lozier, membre de la famille d'une patiente. Elle va parler de la théorie à la pratique, comment la pratique infirmière fondée sur les forces aide les enfants à être auprès d'un parent gravement malade. Nous entendrons ensuite David Wright, fellow postdoctoral, stagiaire postdoctoral, unité d'éthique biomédicale de l'Université McGill. Il est également infirmier clinicien à l'hôpital général juif, à l'unité des soins palliatifs. Il parlera de la mise en pratique de ce que nous prêchons, comment inspirer la sagesse en milieu clinique par la voie de la pédagogie fondée sur les forces. Finalement, Madame Catherine Oliver, conseillère en pratique infirmière au service de perfectionnement clinique et professionnel du Centre universitaire de santé McGill. Madame Oliver nous parlera de la pratique infirmière fondée sur les forces en lien avec le leadership dans le domaine des soins infirmiers. Je vais maintenant céder la parole aux panélistes.
Good afternoon, good morning, everybody.
Bonjour, bon matin. Je suis très heureuse d'être ici et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Avec Céline Lozier, nous allons vous parler de la façon dont on utilise les soins fondés sur les forces pour intervenir dans notre pratique. Aujourd'hui, nous allons être des raconteurs. On n'a pas de diapo de présentation PowerPoint. On va vous raconter des histoires qui, j'espère, seront en lien avec ce que vous avez entendu ce matin. Au cours des 15 prochaines minutes, je vais vous parler de la façon dont moi et mon équipe de l'unité des soins palliatifs en neurologie arrivons à changer notre pratique en permettant aux enfants de venir à l'unité des soins intensifs pour visiter leurs parents qui sont gravement malades. Cela a commencé il y a 8 ans, alors qu'il y avait une infirmière gestionnaire qui a démarré ce mouvement. Céline Lozier va témoigner de sa propre expérience très généreusement en matière de ce domaine, de cette pratique que l'on exerce dans les unités de soins intensifs en neurologie. Elle va nous raconter une histoire qui est arrivée il y a 3 ans. Il y a 8 ans, j'étais directrice à l'unité des soins intensifs neurologiques et c'était ma dernière année dans ce poste. Au fil des ans, avec une fantastique équipe, j'ai pu aider des gens avec d'autres intervenants, bien sûr, les aider donc à élaborer le travail fait auprès des familles des patients. Nous avons élaboré ce rôle et à un moment donné, nous avons pu changer la culture. Nous avons réussi à vraiment nous concentrer sur la famille. Nous avons pu faire changer les heures de visite. Ensuite, les infirmières ont exploré les préoccupations, les croyances, les forces des familles. Nous avons commencé à mobiliser les patients et leurs familles dans leurs soins. Et j'en ai parlé il y a 10 ans, justement, lors d'une de ces journées d'exploration en soins infirmiers. On s'est aperçu que nos patients rajeunissaient. Il y avait des patients de 40, 50 ans. Et on a vu aussi que les familles avaient des enfants à un âge de plus en plus avancé. Donc, bien souvent, on se retrouvait avec des patients qui étaient gravement malades et qui avaient de jeunes enfants. Je me rappelle qu'au cours de cette dernière année, à un moment donné, France est venue me voir et elle m'a dit, Sophie, il y a un père dont la femme a été très malade, elle était mourante, elle est décédée, ils avaient un enfant de 10 ans et le père a dit à son enfant qu'il avait perdu son portefeuille. Le jeune enfant a demandé à son père « Pourquoi tu pleures ?» Parce qu'il pleurait, il a dit « J'ai perdu mon portefeuille. » Bien sûr, l'enfant ne l'a pas cru. Maintenant, on peut mieux répondre aux besoins des familles en permettant aux enfants de moins de 18 ans venir visiter leurs parents gravement malades et leurs grands-parents. Alors, tout ça fait partie de l'histoire. Il s'agit de réunir les familles, de créer un environnement qui préconise encore mieux la santé et la guérison dans ces situations difficiles. Comme Madame Benner le disait plus tôt, arriver à développer des mécanismes d'adaptation, quelle que soit la situation. À l'époque, j'avais l'impression que l'équipe était prête. Je trouvais que le timing était bon. Je voyais qu'il y avait perfectionnement des compétences, des aptitudes. Je leur ai fait confiance. Donc, je suis allée voir France Ellison, qui était directrice à l'époque, et je lui ai parlé de mes idées. Elle a cru en moi. Elle a trouvé que c'était une bonne chose, qu'il fallait aller de l'avant. Elle croyait aussi, bon, qu'on avait vécu beaucoup de changements ensemble, des changements positifs. Donc, elle y croyait. Elle avait des antécédents en pédiatrie, donc elle était prête. Mais c'était difficile pour elle, parce qu'ensuite, on est allé voir l'équipe, on a expliqué un peu ce qu'on voulait faire. On a parlé de ce changement, on a dit qu'on voulait passer à l'étape suivante. Et c'est toujours difficile d'être l'intermédiaire entre la directrice qui a une vision et qui voudra aller de l'avant et les équipes qui commencent un peu à exprimer leurs craintes, leurs préoccupations, parce que pour eux, c'est la première fois. Donc, j'étais un peu prise entre les deux. On a parlé à l'équipe, on a écouté les membres de l'équipe, on a aussi passé en revue la littérature, on leur a parlé des articles qui avaient été publiés. Mais on avait des gens qui étaient très, très préoccupés, qui avaient peur que les enfants soient traumatisés. Ils se sont dit, ça pourrait être mon enfant. Si mon enfant venait et voyait toutes ces machines, c'est vraiment effrayant. Je ne voudrais pas que mon enfant vive cela. Et d'autres personnes disaient, j'avais du mal à effectuer les procédures. J'étais effrayée à l'idée que ces enfants verraient tout ça. Donc, on s'est dit, on va le faire avec une famille. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qu'on va apprendre. Et j'étais prête à travailler avec la famille. Et France a accepté d'embarquer avec moi. Donc, à un moment donné, il y a une mère qui est entrée à l'unité. Bon, j'utilise pas les vrais noms. Je vais dire qu'il s'agissait de Madame Picker. On avait fait tout notre possible pour elle, en équipe, pour essayer de lui sauver la vie. Mais c'était la fin pour elle. Elle avait 2 drains, des intraveineuses, elle était branchée à des moniteurs, des tubes gastro-intestinaux, etc. Et c'est France qui, à un moment donné, a vu que M. Picker était en détresse, bien sûr, face à la situation de sa femme, mais aussi par rapport à son fils. Elle est allée le voir et elle a vu qu'il... Bon, ils avaient un fils, j'ai oublié de le dire, un jeune enfant de 6 ans. Et le père avait expliqué au fils que maman... Elle était partie en voyage. C'est pour ça qu'elle n'était plus là. Donc, France a dit à M. Picker, voudriez-vous qu'on fasse une petite rencontre pour voir comment on pourrait vous aider dans cette situation? Dans sa détresse, il a été assez fort pour accepter notre invitation, pour accepter de discuter. Donc, France et moi-même avons parlé avec lui, on a parlé de développement de l'enfant, comment est-ce qu'un enfant de 6 ans perçoit la maladie, la mort, comment il communique. C'est très différent. Et on a proposé une approche tout à fait différente. On a décidé de lui donner les outils pour communiquer avec son fils. Si France était ici, elle dirait que ce qui a vraiment fait la différence pour elle, c'est qu'à un moment donné, on en a parlé et le père était en train d'entreprendre un processus de deuil, mais pas le fils. Et on se demandait comment est-ce qu'on pourrait harmoniser leur processus de deuil. Bref, France et moi avons découvert que M. Picker était un père qui aimait beaucoup son enfant. Et on lui a donné des documents très simples et il a lu tout ça et il a accepté de revenir le lendemain avec son fils. Donc on lui a dit que son fils devrait apporter des jouets. Son fils s'appelle Peter. Donc le lendemain, il est venu avec son fils. Peter est venu. Il avait apporté des jouets, des petites voitures. Donc on l'a fait venir dans une pièce pour lui expliquer ce qui s'était passé avec sa mère, ce qui se passait, ce qu'il verrait. On a utilisé des termes simples. Et pendant que j'expliquais tout ça, Peter jouait avec ses petites voitures et avec ses petits soldats. Il ne me regardait pas. Cependant, à quelques moments, il s'interrompait. Et là, j'avais vraiment l'impression qu'il intégrait ce que je disais. Ensuite, il recommençait à jouer. Je parlais, il arrêtait, il recommençait à jouer, il parlait un petit peu. À un moment donné, j'ai dit, « Est-ce que tu penses que tu es prêt à aller voir ta maman? » Il a dit, « Ouais. » Et on pouvait voir qu'il était prêt. Il nous a vraiment donné des indications claires comme quoi il était prêt à aller voir sa maman. Donc, on est entré dans la pièce. Au début, il a été un peu surpris, mais il a mis ses jouets sur le lit de sa maman, au pied de sa maman, et France lui montrait que sur la couverture, il y avait des rayures. Et elle dit, regarde, Peter, c'est comme des chemins pour tes voitures. Donc, il a commencé à jouer avec cette petite voiture qu'il a fait rouler jusque à la tête du lit. Et on lui a expliqué que la maman l'entendait. Donc, il a commencé à la fin à lui parler, à lui raconter ce qu'il avait fait à l'école. Il était en première année. Et il a décrit un peu ce qu'il avait appris. Il a dit qu'il s'était un peu battu avec un petit copain à l'école. Et France a décidé de leur donner un ours en peluche parce qu'on avait lu dans la littérature, par exemple en Europe de l'Est, que dans certains cas justement similaires, c'est ce qu'il faisait. Donc on a décidé de lui offrir un ours en peluche pour voir ce qui allait arriver. Il l'a pris, il l'a serré dans ses bras, il l'a utilisé. Et on a vu au fur et à mesure que ces ours en peluche étaient utilisés différemment par les enfants. Il y en a qui le rapportaient à la maison, il y en a qui en profitaient pour pleurer. À un moment donné, Peter a dit « Ok, ça suffit ». Donc, on est sorti de la pièce, on est allé dans l'autre pièce et on s'est assis et on a essayé d'explorer avec lui comment il s'était senti, est-ce qu'il avait eu peur, parce que c'était ça la préoccupation. Pendant ce temps-là, vous voyez un peu d'agitation dans l'unité parce que les gens savaient qu'un enfant était là et les gens étaient nerveux, et moi aussi en fait. Et il fallait vraiment que ça marche, c'était ma seule chance, donc j'étais nerveuse. Donc, on a tous été surpris parce que tout ce qu'il a dit, malgré toutes ces machines, il a parlé du gros pansement blanc sur le nez de sa maman pour retenir une ligne intraveineuse. C'est tout ce qu'il a décrit. Ça nous a un peu soulagés. Il n'a pas parlé de toutes ces grosses machines. On a pu en parler à l'équipe, on a décrit ce que l'enfant avait dit. On a dit, bon, l'enfant ne s'est pas vraiment préoccupé des grosses machines. Et on savait, on avait une intuition que ça allait être comme ça parce qu'on avait lu ça dans la littérature. Il s'était vraiment attardé au pansement sur le nez. Ensuite, on a parlé plus de sa maman, on a parlé d'antibiotiques et j'ai utiliser l'analogie des petits soldats. On essayait d'envoyer des petits soldats dans le corps de sa maman pour que les soldats combattent l'ennemi, les microbes. Mais je lui ai dit aussi qu'on n'était pas sûr si on allait gagner la bataille. On essayait d'envoyer beaucoup de petits soldats dans le corps de sa maman, mais c'était une bataille difficile et on ne savait pas si on allait gagner. Et à ce moment-là, il a arrêté de jouer avec ses jouets. Et quand le père est parti, j'ai dit au père, si jamais Peter parle de sa maman, demande si sa maman va mourir. On lui a donné toute l'information au père. On l'a encouragé à aller dans le sens de cette discussion. Et c'est exactement ce qui est arrivé ce soir-là. Donc, au fil du temps, ce que j'ai fait, bon, j'ai travaillé avec France. Et ensuite aussi, j'ai fait des jeux de rôle avec les infirmières pour transférer les infirmières. Ensuite, France a pu le faire sans moi avec les autres membres de l'équipe. Quelques mois après, on a franchi une autre étape. Il y avait un homme de 37 ans qui est arrivé il semblait assez bien, mais à un moment donné, il ne pouvait plus respirer, il ne pouvait plus bouger. Les infirmières avec France ont décidé de travailler avec la petite fille de 3 ans, de passer à travers ce processus, voir si on pouvait faire venir la petite fille. Et bien sûr, le père et la mère étaient d'accord. Donc, c'est ce qu'on a fait. La petite fille est arrivée avec sa petite robe rouge. Elle est entrée dans l'unité des soins intensifs. Et très vite, elle a demandé à voir son papa. Avant, le père avait insisté pour être assis dans une chaise. On avait réussi à communiquer. Il était intubé. Il portait un vêtement bleu. Et il a demandé qu'on mette des pansements roses sur son visage pour simuler un sourire. C'était très important. On voyait que le père était vraiment prêt à faire tous les efforts possibles pour que ce moment soit un moment spécial. Donc la petite fille est arrivée et rapidement, elle a voulu monter sur les genoux de son père. Et donc elle s'est assise sur son père et elle tenait sa chemise de nuit et elle... Et s'est collée contre sa poitrine. Elle est restée comme ça 5-6 minutes sans bouger. Et ensuite, de temps en temps, elle levait la tête, elle touchait les joues de son père. Et ensuite, elle se reblottissait contre son père. C'était vraiment incroyable de voir comment cette famille a réagi de façon unique. Ils étaient là tous les trois ensemble. Et ça a été impressionnant de voir comment cette petite fille dans sa robe rouge, cette petite fille de 3 ans, savait exactement ce qu'elle voulait. Elle savait ce dont elle avait besoin. C'était vraiment incroyable de voir ça. Elle était vraiment déterminée, elle savait exactement ce qu'elle voulait. Donc, deux situations dont je vous ai parlé qui ont montré qu'il y avait une bonne correspondance et que vraiment tous les ingrédients étaient réunis pour qu'on aille de l'avant. 2 mois après, le père est revenu pour nous remercier pour l'excellent travail que l'équipe avait fait. Et c'était vrai. L'équipe était là, donc je voulais vraiment qu'ils entendent ce que le père avait à dire sur les soins qu'il lui avait prodigués. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui vous a vraiment aidé? Qu'est-ce qui vous a donné la force de passer au travers? Et il a dit, ça a été de voir ma fille. Elle est venue à peu près 3 fois en l'espace d'un mois. Donc, ça a été un moment révélateur pour nous aussi. On a vu que c'était important d'aller de l'avant parce que c'était très, très bénéfique pour les patients. Donc, on a passé de libéré de à libre de, comme Madame Benoît l'a dit. Maintenant, je vais demander à Céline Lauzier de vous dire quelques mots. Elle va partager son histoire. Elle va parler de sa mère qui était patiente à l'unité de soins intensifs neurologiques. C'est un événement qui s'est passé pendant le week-end. Je n'étais plus sur place ni Francine. Donc, elle va vous raconter ce qui s'est passé. Bonjour. Ma mère est décédée il y a environ 3 ans à l'unité des soins intensifs de l'hôpital neurologique de Montréal. Et je vais partager avec vous cette histoire triste, mais enrichissante pour moi et pour ma famille. À l'arrivée à l'unité des soins intensifs neurologiques, c'était en plein milieu de la nuit, mon père et moi ont été accueillis par l'équipe de docteurs, de médecins et d'infirmières. La première chose que l'équipe a fait, ça a été de nous écouter. Elles ont écouté, donc ce qu'on savait, ce qu'on comprenait, elles se sont demandé quelles informations pourraient être utiles pour nous à ce moment-là. On s'est senti compris, respecté à l'égard du niveau d'information qu'on avait à l'époque. Quand le reste de la famille est arrivé, tout le monde a été accueilli au chevet de ma mère. Le point le plus important pour nous tous, c'est qu'on a vraiment eu l'impression que ma mère était traitée comme une mère, comme une épouse, comme une sœur, jusqu'à la toute fin. Même si on soupçonnait des lésions cérébrales très, très sérieuses, elle est quand même, les infirmières l'appelaient par son nom, lui expliquaient les procédures, s'assuraient qu'elle était bien positionnée sur son lit et lui ont délicatement fermé les yeux à la fin. La chaleur et ses gestes nous ont tous touchés. L'infirmière, dès qu'elle est arrivée, a offert des ours en peluche à mes enfants qui avaient 14 et 15 ans, pour leur expliquant qu'ils pouvaient les utiliser comme soutien en cette période difficile. Ma fille a serré l'ours en peluche pendant toute la visite et mon fils a encore cet ours en peluche aujourd'hui. Ça a été quelque chose de très significatif pour nous. L'équipe de médecins et d'infirmières nous ont rencontrés pour nous annoncer que ma mère était morte, mort cérébrale. tout le personnel était très, très attentif et prêt à répondre à toutes nos questions. On était tous accueillis. On a tous été au chevet de ma mère lorsque son cœur s'est arrêté, ce qui nous a permis de nous sentir moins seuls et de nous aider les uns les autres. Ce qui a été important pour moi, en tant que mère, avec l'approche de cette équipe, c'est le fait que j'ai pu donner le choix à mes enfants d'être présents ou pas. Ça n'a pas été le cas lorsque ma grand-mère est décédée. Je n'ai pas eu à me battre pour leur donner le choix. Je savais que mes enfants avaient la force de passer au travers cela et qu'ils évolueraient. Quelques semaines plus tard, lorsque je me suis remémoré ces événements, je me suis rendu compte que on avait évolué à travers cette expérience en tant qu'individu et en tant que famille. Par exemple, ma mère nous a quittés le dimanche. Le lundi, mon père, mon frère et moi avons passé toute la journée à faire les arrangements. Mes enfants ont demandé à rester à la maison parce qu'ils étaient encore ébranlés par le décès de leur chère grand-mère. Finalement, lorsque je suis rentrée chez moi le soir à 6 heures, la maison avait été nettoyée, la lessive avait été faite et le repas était prêt sur la table. Quand j'ai vu ça, je suis devenue très émotive. On s'est serré dans nos bras et mes enfants m'ont dit qu'après m'avoir vue si triste la veille, ils avaient envie de me faire plaisir. Ils ont voulu rester à la maison pour s'occuper l'un de l'autre et aussi pour s'occuper de moi. J'ai vraiment été touchée. Je n'étais pas habituée à un tel comportement si altruiste de la part d'adolescents égoïstes normaux. Le fait que mes enfants avaient été là, au chevet de ma mère. Le fait qu'on ait vécu cette situation ensemble, en famille, a vraiment fait la différence. Ça nous a aidés dans notre processus de deuil et de guérison lorsqu'on a parlé de l'expérience. Ça a été significatif pour chaque membre de la famille. Nous avons pu partager ce qu'on a ressenti les uns les autres. Et ça nous a aidés vraiment à guérir et à nous rapprocher en tant que famille. Mais ce n'est pas miraculeux. Mais malheureusement, depuis ce jour, ma fille n'a plus jamais retouché à l'aspirateur. Comme vous pouvez la constater, après mon départ, tout ça est resté intégré dans la culture de l'hôpital. Ça montre comme les soins infirmiers fondés sur les forces sont significatifs, sont pertinents. Si France était ici, je crois qu'elle dirait aussi que ces pratiques sont maintenues. Les enfants ont encore le droit de visiter leurs parents, leurs grands-parents gravement malades. On fournit encore les documents qui sont offerts gratuitement. Les ours en plus sont aussi donnés encore et maintenant, ce sont les auxiliaires qui s'occupent de cet aspect-là du programme. Ils ont même créé un comité de soins infirmiers pour la famille et pour les professionnels, pour que la pratique se poursuive. Ils ont même soumis un projet cette année pour le programme de maîtrise à la faculté des soins infirmiers de McGill pour intégrer ces nouvelles pratiques d'intégration des enfants. Donc, félicitations à l'équipe de soins intensif neurologique. Pour terminer, je veux dire que tout le monde a des forces et c'est aux infirmières d'identifier ces forces chez les patients, chez les membres de la famille. Tout cela nous aide à développer notre pratique et à la maintenir. Merci Laurie Gottlieb pour votre courage et votre passion et merci d'avoir pris le temps de mettre des mots sur ce que nous faisons. Je trouve que votre ouvrage est comme un phare pour les infirmières et pour les soins infirmiers. Merci beaucoup. Bon après-midi? Non? Bon matin? Bonjour. J'ai la réputation de parler plus longtemps que le temps qui m'est accordé. Donc, si c'est le cas et si on m'interrompt, je vais tout de suite vous donner les révélations de la fin. Donc, voilà, je commence par la fin. Pour moi, Les soins fondés sur les forces, c'est un paradigme relationnel. C'est une façon de voir le monde, la lentille à travers laquelle on voit nos relations, nos familles. C'est un cadre normatif parce que ça va au-delà des descriptions de ce que sont les soins. Il s'agit plutôt de parler de ce que les soins devraient être, devraient signifier. Et à la fin, c'est un fondement pour l'horizon moral de possibilité pour les relations infirmière-patient, infirmière-famille. Si on veut enseigner aux étudiants à faire tout ça, eh bien, il faut pratiquer ce que l'on prêche. Donc, la pédagogie fondée sur les forces est également un paradigme relationnel axé sur la façon dont on voit le monde en tant qu'éducateur. Il s'agit de voir les choses à travers la lentille qui nous permet d'adopter un cadre normatif pour établir une base morale pour ce que nous voulons dire lorsqu'on dit qu'on est des enseignants. Et cette fondation nous offre un horizon moral de possibilités par rapport à la relation professeur-étudiant. Donc voilà, vous pouvez quitter quand vous voulez, je vous ai révélé la fin de ma présentation. Mais bon, on va quand même revenir au début. Si on dit qu'on est des éducateurs en soins infirmiers, qu'est-ce qu'on s'attend de la part de nos étudiants? Au minimum, je pense qu'on peut dire que on s'attend à ce que nos étudiants développent des connaissances par rapport aux normes de pratique professionnelle qui vont se familiariser avec les contextes juridiques et éthiques, comprendre la loi, les codes éthiques. Ils vont aussi comprendre ce que ça veut dire que de travailler de façon collaborative et interprofessionnelle. Et ils vont aussi commencer à comprendre ce que ça veut dire que de s'engager dans des relations thérapeutiques avec les patients et leurs familles. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Moi, je l'espère. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je me demande, est-ce que c'est tout? On espère que les étudiants tireront tout ça de leurs études. Si on regarde ce que Laurie a écrit, on vit dans une société où la pensée basée sur le déficit est la norme. On se concentre sur le négatif plutôt que sur le positif, sur ce qui va mal plutôt que sur ce qui va bien, sur ce qui doit être réparé plutôt que sur ce qui marche, et sur les douleurs et les chagrins de la vie plutôt que sur les joies et les célébrations. En gros, on recherche les déficits et bien souvent, on passe à côté des forces et des nombreuses possibilités et de nombreuses opportunités nous permettant d'améliorer la qualité de la vie de nos patients. Il s'agit là d'un malaise culturel profond de notre monde d'aujourd'hui. Il s'agit d'une crise morale. Et si nous voulons que la prochaine génération d'infirmières et d'infirmiers réagisse à cela, je crois que mon petit appareil, ma petite télécommande ne fonctionne pas. Voilà. De quoi s'attend-on de la part de nos étudiants? Je pense qu'on veut qu'ils personnifient cette façon d'être dans leur pratique quotidienne, qu'ils aillent à l'encontre de ce malaise culturel qui existe aujourd'hui, de façon à ce qu'aucune infirmière dans l'avenir ne pourra pratiquer pendant 8 ans et ensuite dire « je ne sais pas ce que sont les soins infirmiers » comme Laurie l'a dit ce matin, parce qu'ils internaliseront ce que cela signifie que d'être une infirmière. Au bout du compte, ce qu'on veut que nos étudiants fassent, c'est de mener une révolution culturelle. Comment le faire? J'ai souligné seulement 3 concepts de Laurie. Il y en a beaucoup plus, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, on va parler de ces 3-là. Donc, le caractère unique de la personne. En pratique, on ne peut pas parler de taille unique parce que tout le monde est unique. Je pense que Laurie a raison. Nos héritages pratiques et théoriques, en fait, nous servent. Les infirmières sont bonnes lorsqu'il s'agit de décrire le caractère unique de chaque individu. Par contre, les éducateurs, je ne sais pas. Est-ce que on en parle vraiment à nos étudiants? Est-ce qu'on exprime la valeur de cela? Qui sont nos étudiants? Hein? Quelles sont leurs valeurs? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la profession infirmière? Et quels sont leurs espoirs et leurs rêves? L'humilité est caractérisée par une bonne compréhension de nos qualités et de nos limites. Toutes les citations sont tirées directement de l'ouvrage de Laurie. Il faut donc reconnaître nos erreurs, nos imperfections, nos lacunes, être ouvert à de nouvelles idées, à des informations contradictoires, à des conseils et apprécier la contribution des autres. Alors, pour être humble en tant qu'éducateur, il faut ouvrir un espace d'apprentissage mutuel. Bien sûr, nos étudiants apprennent de nous, mais je pense que nous pouvons apprendre de nos relations avec les étudiants. Et si on est ouvert à cela, des choses formidables peuvent se produire. Voilà un exemple très récent. Non, je vais y arriver dans un instant. Donc, il faut que l'on se demande, qu'est-ce qui m'impressionne et m'inspire chez mes étudiants? Qu'est-ce que mes étudiants m'enseignent tous les jours au sujet de la vulnérabilité, de la résilience, de la passion? Et à la fin, Mes étudiants m'apprennent des choses au sujet des soins infirmiers tous les jours et je peux devenir un meilleur infirmier grâce à cette communication authentique avec mes étudiants. Voici un exemple très récent, un exemple où j'ai vraiment été impressionnée par une initiative des étudiants. Il s'agit d'un projet mené par certains étudiants. Certains sont ici. Vous avez rencontré Hélène Doucette ce matin, elle en faisait partie. Ces étudiants ont décidé de décrire leur expérience de participation en tant qu'étudiant au travail dans une unité de soins intensifs pour la pratique de soins en fin de vie. Alors, ils ont décrit leur expérience comme étant une expérience qui les dépassait, mais aussi, ils ont dit qu'ils avaient envie d'apprendre, ils étaient inspirés et ils ont vu qu'ils pouvaient avoir un impact. Ils ont dit, nous sommes là, voyez-nous et faites-nous participer parce qu'on a quelque chose à contribuer. J'ai rien appris de nouveau, en fait, parce que quand j'étais étudiant, on avait ces conversations aussi. La différence, c'est que les étudiants n'ont pas limité ces discussions aux vestiaires. Non, ils ont présenté tout ça lors d'une conférence nationale. Ils sont allés beaucoup plus loin, de façon à révolutionner, à changer la façon dont les cliniciens, les praticiens travailleront avec les étudiants dans l'avenir. C'est vraiment incroyable et c'est inspirant. Et voilà le travail que certains de ces étudiants font. Concordance, correspondance, se produisent lorsque les capacités des individus sont en harmonie avec les exigences et les attentes de l'environnement. Lorsque cela se produit, il peut y avoir des transactions positives. Voici la partie importante. Les personnes s'épanouissent dans les environnements stimulants parce que ces environnements les encouragent à développer leurs capacités, leurs aptitudes, leurs forces, leurs compétences. En tant qu'éducateur, en soins infirmiers, la pertinence de ce commentaire, c'est qu'on devrait mettre au défi les étudiants d'avoir des attentes élevées, mais ensuite il faut créer des environnements sécuritaires qui les soutiennent de façon à ce qu'ils peuvent rencontrer ou même dépasser ces attentes. Et le point clé ici, c'est la souplesse. En tant qu'éducateur, il faut laisser tomber la rigidité qui semble définir la façon dont on interagit avec nos étudiants. Parfois, je crois, on a un programme de cours, on a des journées prévues pour les travaux cliniques, ils doivent aller en clinique tant de jours par trimestre, ils doivent lire tel et tel chapitre, faire telle et telle tâche. Mais si on a des étudiants qui ont des idées, qui ont des patients et qui demandent, je voudrais participer à telle et telle conférence, c'est à nous de les aider, de les encourager à participer à un événement. Si, par exemple, ils veulent faire une visite à domicile, ça ne fait pas partie du cours qu'on a prévu, mais ce n'est pas grave, on devrait leur permettre de le faire. Il faut être assez souple et assez créatif et aider nos étudiants à développer leurs possibilités d'apprentissage qui sont significatives pour eux.
So I'm getting a sign that I need...
Bon, on me dit qu'il faut que j'arrête. Alors, je terminerai là-dessus. On me demande quel est le plus gros défi en matière d'éducation pour nous. Les soins infirmiers, c'est une discipline intellectuelle, on ne le sait pas toujours. Les étudiants doivent venir à l'université pour s'élargir leurs horizons, mais il faut donc explorer le monde des idées. Il faut revoir le statu quo. C'est pas une pédagogie qui repose sur les points forts que l'on pourra avoir une bonne formation effectivement dans toute matière de soins infirmiers. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le comité de planification qui m'a invité à faire partie de ce panel. Je dois parler ici de leadership dans le domaine des soins infirmiers basés sur les forces. Je vais vous donner le contexte, un exemple, et vous dire quels sont en fait les problèmes éventuels. Mon but ultime, c'est de donner quelques moments de réflexion aux leaders que nous avons ici. Et trouver des mots en fait pour décrire les activités qui sont les vôtres. Cette approche repose sur les 8 valeurs mentionnées par Laurie, que le docteur Gottlieb a mentionnées plus tôt aujourd'hui. Les voici. Maintenant, qui s'applique au dirigeant, au leader et à son leadership, c'est structure. Il y a des éléments d'attitude et structurels. Le but, de ce leadership et de créer les conditions qui permettra d'apporter les soins basés sur le force, de créer un environnement qui permettra aux infirmiers et infirmières d'offrir ces soins, un milieu dans lequel le personnel infirmier se développe plutôt que se contenter simplement d'être chez. Le docteur Gottlieb et Chemien ont écrit de façon détaillée des descriptions dans le domaine donc du leadership. Comme Hélène l'a dit dans sa présentation, je travaille au service à l'université Mayo. Nous avons 6 campus, 52 unités pour les patients résidents. Certains d'entre vous travaillez peut-être dans un milieu équivalent. Quelles que soient les spécificités de votre milieu de travail, les concepts que je vais vous présenter, vous verrez, s'appliquent à vous. À quoi ça ressemble, ce leadership dans le domaine des soins infirmiers basé sur les forces? En 2008, dans le cadre d'une vision plus large de création d'un milieu de travail sain au département de nursing, on m'a demandé, on m'a demandé de concevoir et de mettre en place un programme de transition pour aider les jeunes diplômés. Nous avons créé un comité, nous avons pris les éléments existants, nous avons fait des comparaisons à l'intérieur et à l'extérieur et nous sommes donné des modèles, des choses habituelles pour nous guider. On a été guidés par un certain nombre de valeurs. Le programme ne peut fonctionner s'il reste souple, s'il reconnaît la spécificité des différentes unités. Certaines unités recrutent un grand nombre d'infirmiers et d'autres autres. Puis ça peut varier d'une année à l'autre. Ça peut être durable que dans la mesure où il y a un partenariat entre l'équipe des unités ainsi que l'équipe qui travaillait à l'élaboration du programme. Il fallait également une coopération avec le nouveau personnel infirmier. Il fallait de nouveaux personnels la possibilité, enfin, de se développer, de se perfectionner à partir de leur expérience. Ce dont je suis plus fière, c'était le programme de soutien pour transition pour la première année, avait deux modalités, jeunesse et mentorat. Jeunesse, ça c'est pour le premier groupe, et pendant 8 mois, ils travaillent en rotation. L'éducateur anime les ateliers et le contenu déterminé par le nouveau personnel infirmier à partir de leur expérience. Par exemple, si vous travaillez la nuit, quels sont les problèmes que l'on connaît où la personne va vous dire, bon, il y a eu un arrêt cardiaque la semaine dernière, la famille a été très perturbée, je ne savais pas quoi faire. Et dans chaque séance, on prévoit du temps pour rencontrer la responsable des soins infirmiers pour déterminer quels sont les problèmes. Le nouveau personnel infirmier aime beaucoup ses contacts avec la responsable des infirmiers qui, avec leurs responsables, ils peuvent travailler sur les nouvelles questions et les nouveaux problèmes. Certains choisissent également d'avoir des programmes de mentorat. On a donc un infirmier d'expérience qui se trouve à être mentor d'un nouveau venu dans la profession. Ces couples déterminent quand ils vont communiquer, ils se donnent un contrat, ils se rencontrent régulièrement avec la personne qui est responsable donc de l'ensemble du programme. Ce qui est important pour la durabilité du programme, ce sont les réunions de mise en œuvre. Avec l'éducateur, je rencontre le directeur, son assistante, et l'éducateur de telle ou telle unité. Nous décrivons le programme tout en l'appliquant, on va voir où on en est dans l'application, ce que réserve la recherche, et ensuite on demande à la personne, parlez-nous de votre unité. Nous pensons que si l'on veut que le programme soit efficace, il faut qu'il réponde aux besoins particuliers de votre unité, tous ensemble. Bon, on essaie de voir comment les programmes standards peuvent être adaptés aux caractéristiques particulières de cette équipe de leadership. Et bon, nous avons trop de nouveaux venus, le budget est trop serré. Le service d'urgence de l'hôpital général de Montréal nous a dit qu'il voulait la jeunesse pour les nouveaux, mais ils ont également beaucoup de transferts à l'intérieur. Et là, ils ont pensé que le mentorat pourrait être utile pour ceux qui étaient transférés. On a pu travailler avec l'équipe du service d'urgence pour créer des outils qui permettent d'évaluer le programme et pour partager l'expérience avec d'autres unités qui pourraient leur ressembler. Il est très important de prendre en considération la spécificité de chaque sous-unité. Il faut travailler en collaboration avec l'équipe de leadership. Il faut respecter et, donner les moyens possibles à l'équipe pour faire le travail. Tout cela, c'est ce qui permet d'avoir une stratégie réussie. Les infirmiers et infirmiers participants nous disent qu'ils se sentent valorisés, sans avoir responsabilisés, et ils souhaitent continuer à apprendre. Depuis 2008, lorsque l'on a mis en œuvre pour la première fois le programme, la conservation des nouvelles unités, dans les nouvelles unités de ces nouvelles recrues a augmenté de façon considérable. Avant de terminer, j'aimerais parler des problèmes que l'on peut avoir. Un des avantages de cette approche, dont on a beaucoup parlé ici aujourd'hui, c'est que ça nous permet de nous éloigner de ce que Mike Hall appelle un programme basé sur les problèmes. Bien des leaders, passent leur temps là-dedans, plonger dans les problèmes. C'est vrai que si l'on ne travaille pas sur les problèmes, notre crédibilité comme leader est complètement donc sapée toujours, d'après Gottlieb et Shaman. Ce qu'il faut, c'est travailler sur les forces pour faire face aux problèmes de déficit. Lorsque je reçois un courriel d'un directeur adjoint de nursing qui me dit « Catherine, le groupe de leadership que vous avez rencontré la semaine dernière, pense qu'il y a quelque chose que vous ne saviez pas. Moi, je m'inquiète de la décision prise. Il faut parler au lorsque directeur du groupe Genèse entend pas. D'intimidation par une nouvelle recrue, elle a l'impression que je ne peux pas maîtriser la situation. Comment on peut apposer une approche basée sur les forces dans ce genre de situation? Au centre, MUHC, le personnel infirmier joue sur son réseau. Grâce au courage et grâce à la vision des directeurs et directrices de nursing, le personnel infirmier a participé à des groupes de pratique réguliers, des petits groupes de 6 leaders de même type dirigés par le facilitateur se réunit. Donc, une personne se porte volontaire pour présenter son cas, un cas réel, un cas compliqué, délicat, et les participants travaillent ensemble en utilisant cet espace sécuritaire du groupe pour se détendre, réfléchir et appliquer les principes de pratique de Jerusalem Schaum, qui correspondent tellement d'ailleurs aux principes que l'on retrouve dans les soins basés sur la force, c'est-à-dire donc capacité, réflexion. C'est un moment de répit en pleine crise. C'est l'occasion de valider sa réalité objective et souvent de voir que c'est une réalité partagée. Ça donne la possibilité de réfléchir de façon structurée sur nos actes et ça nous permet de s'entraîner, de faire du coaching, de jouer des rôles. Ça permet d'aller chercher les forces dont on a besoin pour continuer à préserver ces relations de collaboration. Savoir que notre santé, que nos connaissances sont valorisées, que nous pouvons aller chercher de nouvelles aptitudes, de nouvelles forces, que nous avons de nouveaux espoirs pour pouvoir faire face à ces problèmes. Merci.
Je voudrais remercier les membres de la table ronde, Sophie, David, Catherine, qui ont partagé et Catherine nous ont dit comment cette approche peut avoir un effet sur la pratique, sur l'éducation et le leadership. Avec le docteur Gottlieb et Bettner, nous recevons maintenant les questions de l'auditoire. Ceux qui participent par voie de vidéoconférence sont également invités à poser des questions.
On vous invite d'envoyer vos questions pour nos panélistes. Norma and I will be at both.
Norma et moi-même serons de part et d'autre de la salle avec des micros. Et si vous avez des questions, donc, nous vous emmènerons les micros. Merci à tous.
J'aimerais faire deux commentaires pour dire que j'ai interviewé ces personnes pour mon livre. Je voudrais remercier Céline. On a besoin d'entendre davantage parler des effets de notre travail. La famille est clé, nous le savons. Et nous pensons que, après notre intervention, l'effet est terminé, mais cet effet se fait ressentir pendant très très longtemps. Ça peut avoir des effets majeurs. Lorsque l'on parle de nursing, il ne s'agit pas simplement de patients dont nous nous occupons. C'est toute la famille, en fait, qui est touchée. Et lorsque l'on intervient avec passion, avec sollicitude, ça peut aider beaucoup la famille à guérir. Il y a des effets à long terme de nos interventions. Merci. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que ma fille a fait la transcription des textes pendant que je écrivais ce livre, et c'est elle qui a fait la transcription de ses interventions. Le taux était... Et ça... présenté sur la BPC. Et pendant qu'elle s'est présentée, l'histoire de Sophie, on a apprécié la valeur. Et ce sera d'ailleurs le sujet d'un épisode qui sera fait sur donc le domaine médical. Et David nous montre la passion d'une soins infirmiers, la passion de l'enseignement qui peuvent s'influencer de façon synergique. Et ça peut. Et cette passion va transformer la pratique des gens qui auront été exposés. David m'a sensibilisé à l'importance également de cette approche dans le domaine de l'éducation. Et c'est quelque chose qu'il faut cultiver dans tous les aspects, en fait, de notre profession, dans notre profession et dans notre façon d'être. Nous avons un très grand nombre de personnes qui ont contribué à notre livre, mais Catherine a été la seule personne à avoir parlé de pratique dans la perspective de l'administration et de leadership. Catherine avait vraiment réfléchi à la question. Et c'est un soir, 14 du matin, juste au moment où mon livre était prêt à aller à la presse, je me suis dit non, il faut que je sollicite davantage sa contribution. Et ça a été le début de ma propre transformation lorsque j'ai compris que tout ça n'était pas simplement une question d'éducation, une question de pratique. Non, ce que cela me révèle, c'est qu'on n'arrivera nulle part si l'on, à tous les niveaux, nous n'avons pas les mêmes valeurs, ne partons pas de la même perspective. Alors je voudrais vous remercier tous et chacun de m'avoir tellement apporté.
We're ready for some questions.
On est prêt à recevoir vos questions. Ce micro n'est pas branché sur la cabine d'interprétation. Est-ce que l'on peut le signaler? Voilà, le son. Bon, tout cela m'a pris ce que c'était qu'être infirmière. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de prêcher à des personnes converties. Par contre, si je m'adresse à mes amis et à ma famille, c'est beaucoup plus difficile d'expliquer tout cela. Alors ma question, est-ce que l'on pourrait pas en avoir un argument clair, concis, à destination du public pour justifier ce type d'approche de soins basés sur les forces? C'est une question extrêmement difficile, mais c'est une très bonne question. Les soins basés sur les forces, c'est pas simplement une doctrine, c'est pas simplement une théorie, mais c'est vraiment une pratique. Et cette pratique, ça inclut une écoute active. Ça demande de la curiosité, de l'ouverture, une réflexion profonde, la création d'un espace d'ouverture sécuritaire qui permet de découvrir les forces de la famille et du patient avec lequel on travaille. Voilà pourquoi c'est difficile de communiquer cette approche, car c'est une approche en fait qui comporte toutes sortes de particularités. Alors, je pense que le livre nous donne un langage, des termes que l'on peut utiliser pour parler de cette nécessité de bâtir sur les forces, plutôt que de se contenter simplement de modifier un certain nombre de choses. Cette possibilité située, c'est une expression que j'aime beaucoup, car je me souviens quand j'ai été confronté pour la première fois à la souffrance, quand je faisais des études d'infirmière à 18 ans, les gens me disaient, mais tu es infirmière, tu vas comprendre ça. Et non, je ne comprenais pas à ce moment-là. Il m'a fallu quelques 5 ans avant que l'on ne me parle, que les patients me parlent de leur peur de mourir et que j'ai pu y répondre. Donc, il y a vraiment un processus qui se développe. Ça demande une évolution. C'est pas donné au départ, mais c'est une façon d'être au monde, d'être aux côtés. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la tradition de défense des droits des patients. Lorsque je travaille avec des gens qui me décrivent des situations où ils défendent les droits des patients, cela me passionne, pas pour des considérations juridiques. Il s'agit d'être à côté du patient, de l'accompagner, d'être à ses côtés, de voir ses points forts, et c'est une question également de respect. Pour moi, ce type d'approche de soins est marginalisé dans un contexte de culture qui a tendance à normaliser. Et c'est une approche qui a été marginalisée. Et l'histoire est une bonne façon de cerner les difficultés, car là, vous pouvez vraiment présenter la réalité. Quelquefois, ce sont les petites choses que l'on fait pour quelqu'un. Tel que du coke avec des glaçons dans un établissement du Massachusetts qui a fait toute la différence parce que là, il a eu vraiment l'impression que l'on s'occupait de lui, qu'il comptait. Et plus on a d'imagination clinique, plus on se perfectionne dans cette pratique. C'est pas simplement une théorie, c'est vraiment une question de pratique, tout cela. On a beaucoup parlé de soins axés sur le patient, centrés sur la famille. Il faut se demander dans quelle mesure ça se pratique. Certaines de ces idées vont vous paraître familières. C'est quelque chose qui se fait déjà, c'est vrai. Mais pas suffisamment en profondeur, pas systématiquement, et pas avec toute la compréhension de la situation qui permet de donner toute sa profondeur à l'intervention des infirmiers et infirmières. Bon, oui, j'ai des étudiants qui m'ont déjà dit, oui, j'ai déjà entendu cela, oui, ils ont entendu les mots. Mais derrière les mots, est-ce qu'ils ont vraiment compris d'où ça venait, quand il faut faire preuve de tel ou tel comportement. Le nursing, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense habituellement. Il faut les aptitudes, il faut être attentif, il faut savoir quand agir dans telle ou telle situation. C'est un ensemble de compétences très complexes qui dépendent des situations. Si la situation était comme celle que vous la décrivez, on recevrait toute cette formation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut donc humaniser, il va falloir donner ce que l'on peut offrir de mieux dans nos soins infirmiers. Je reviens à notre mandat, c'est-à-dire permettre à la personne de se guérir elle-même et l'amener dans l'état qui lui permettra de le faire et qui permettra à la nature donc de faire son œuvre. Notre culture a également cette façon de pathologiser toutes sortes de choses en marginalisant nos interventions, en disant, bon, oh oui, mais ça va vous fatiguer. Bon, il y a tout un travail émotionnel qui peut être extrêmement lourd, mais on peut peut-être retourner les choses en disant, bon, le saut en parachute. Personne ne parle de burn-out lié au saut en parachute. Moi, j'en fais pas du parachute. Je pense que ça me ferait tellement, tellement peur. Mais on peut voir qu'il existe une perte de l'intimité, de la proximité, de don. Or, il va falloir, du point de vue culturel, apporter les corrections nécessaires à cette perspective. Car sans connexion, sans sollicitude, sans caring, on est complètement perdu comme des êtres qui divague dans cet univers. Donc, c'est très important d'être capable d'établir des liens, des connexions, de se sentir proche de l'autre si l'on veut vraiment réussir. Ça, c'est des changements qu'il faut apporter dans notre culture. Une infirmière parler du temps qu'elle passait avec ses patientes. Et une autre collègue lui a dit, mais pourquoi tu passes autant de temps avec les patients, c'est pas des soins infirmiers? Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez répondu? Et elle a eu exactement la bonne réponse, m'a-t-elle dit. Elle lui a dit, mais c'est quoi les soins infirmiers? C'est une anecdote que je trouve intéressante. Moi, je crois que la première chose à faire lorsqu'on pratique, c'est se demander si l'on est capable d'exprimer, d'articuler en mots simples ce que l'on fait. C'est pas facile. Essayez donc d'expliquer ce que l'on fait en termes simples. Et une fois qu'on a réussi à le faire, on peut présenter des exemples de ce que l'on fait aux gens de l'extérieur. Et on leur demande ensuite aux gens de l'extérieur de nous dire comment ils ont vécu leur expérience éventuelle à l'hôpital. Alors j'ai une anecdote, j'ai une sœur qui est psychiatre. Alors, elle m'a dit, c'est quoi le nursing? C'est quoi? C'est une nouvelle psychologie? Alors, donc, on a dû discuter de ce que ça représentait, cette nouvelle approche. Ça l'intéressait à l'époque. Elle était en psychiatrie d'urgence. Maintenant, elle fait de la pratique privée. Et elle m'a dit que quelquefois, elle utilise elle-même cette approche basée sur les forces. Merci de toutes ces questions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais simplement ajouter quelque chose à ce qu'a dit Sophie à propos de la nécessité de présenter les choses de façon transparente aux amis, à la famille. Des étudiants l'ont mentionné également. Il y a quelque chose que j'ai appris depuis longtemps du professeur Mark Hudon, qui était professeur à l'école de soins infirmiers. Et une des choses qu'elle a dit, pour résumer notre travail, elle a dit le rôle des soins infirmiers, c'est d'aider la famille et les patients à être compétents dans la gestion de leur maladie. Pour moi, c'était déjà une bonne description et un morceau de l'explication. Et il faut donc, avec le temps, accumuler ce genre de morceaux d'explications pour pouvoir donner une explication complète et transparente aux gens de l'extérieur. De cette façon, nous pourrons expliquer ce qui nous paraît avoir de la valeur et pourquoi nous faisons les choses. Bon, les gens doivent quelquefois avoir leur propre découverte. Je me souviens d'avoir donné une conférence à Calgary et quelqu'un est intervenu en disant, après avoir lu votre livre, j'ai pu trouver les termes qui me permettaient d'abord de me comprendre moi-même avant de comprendre les autres. Donc, c'est important d'avoir le langage pour comprendre la signification et l'importance de ce que l'on fait. Et à ce moment-là, on peut mieux ensuite recevoir le message des autres et apporter son propre message aux autres.
C'est... Go ahead.
Allez-y. Je suis de l'école de nursing de McGill. Je voudrais faire ressortir une dimension qui a traversé toutes les présentations que l'on a eues à partir du travail que je fais moi-même. C'est la dimension morale de la pratique infirmière et de l'engagement infirmier. Pour les familles, personne. Et je voudrais rebondir sur des commentaires qui ont été faits pour nous inviter à voir et à comprendre les étudiants et les étudiantes comme des personnes. Eh bien, il est très important également de faire la même chose avec les patients. Et comment comprendre ce que l'on appelle le burn-out? Comment comprendre le stress dans la pratique quotidienne du personnel infirmier, alors que la tradition veut que l'on voit là un déficit psychologique qui montre qu'il y a eu un échec et que l'on n'a pas pu répondre aux exigences du travail. Alors, ce que l'on a comme modèle habituel, c'est bon du repos, un arrêt et ensuite acquisition d'une plus grande résilience. C'est là-dessus que l'on va travailler. Je crois qu'il va falloir davantage travailler sur d'autres concepts et d'autres explications, la détresse morale et l'agence morale. Lorsqu'on parle de détresse des infirmiers infirmières, détresse morale, c'est parce que le nursing, les infirmiers, les infirmières sont des activités qui essaient de faire avancer la justice, le bien. Au moment où les infirmiers infirmières sont confrontés à une détresse au travail, c'est considéré comme une détresse morale, et cette détresse morale, c'est le malaise que l'on éprouve lorsqu'on a l'impression que l'on ne peut pas faire le bien, que l'on ne peut pas faire avancer les droits et faire avancer ce qui convient de faire. Si l'on voit la pratique infirmière comme une agence, une activité morale, on pourra voir la détresse pas comme l'apparition d'un problème psychologique avec donc nécessité de thérapie ou de repos, mais plutôt représentation d'une volonté d'engagement et de préconisation du bien. Et c'est quelque chose qu'il faudrait être célébré. Et donc, c'est une approche qui nécessitera une plus grande attention, une plus grande mobilisation. C'est un commentaire plus qu'une question. Mais je, en rebondissant sur les commentaires de David, je rappellerai qu'il est très important de reconnaître les étudiants comme étant des personnes qui ont toutes ces capacités. Il faut comprendre tout cela. Et cela, ça s'inscrit dans notre compréhension et l'appréhension du personnel infirmier. Je vous invite tous à lire la nouvelle dissertation de Tony Cavanelli. C'est vraiment novateur.
Et cela, donc, nous ramène au principe du nursing. Avec Carnegie, on se pose la question sur les étudiants ainsi que les facultés. Où prennent-ils leur connaissance quant à ce qui est éthique? Les étudiants et la faculté ont un langage très appauvri, un langage
formel appauvri, un langage théorique appauvri. Eux pensaient que l'éthique, quand on parlait éthique, on parlait de bioéthique, d'autres types d'éthique. Et dans la dissertation de Franco Carnevali, on parle d'alternatives. Mais ce que nous avons dit, c'est que selon les études Carnegie, nous devons enseigner tout ce qui est dilemme éthique associé au dilemme, etc. Mais il y a également la pédagogie qu'on appelle mainstream, entre guillemets, un comportement éthique au quotidien préconisé. Et ça a beaucoup à voir avec les relations, les rapports, les soins, les responsabilités avec le patient. Donc, à l'heure actuelle, tout est vraiment très appauvri. Mais la bonne nouvelle, et les gens de Carnegie l'ont indiqué, les études en soins infirmiers démontrent qu'on focalisait majoritairement sur le comportement au quotidien, mais que nous n'avions pas les mots, le langage adéquat pour le faire. Alors, dans les histoires où, par exemple, lorsqu'on demande aux infirmières de parler à elles, à la première personne, de situations cliniques où elles ont appris quelque chose, dans leur explication, les bonnes notions qu'on en a soutirées étaient qu'il était bon de rencontrer le patient en tant qu'individu, comme personne, préserver la dignité et l'identité individuelle de la personne, ça encore, c'est assez percutant. Et trois éléments, de répondre et de faire face à ces soins qui sont en bas des normes habituelles et de défendre le patient. Et là, on parle de cette notion très importante, encore une fois, de défense des droits du patient. Parce qu'il y a la question du réconfort, d'encouragement, d'insuffler de nouvelle énergie, de force, etc., tous ces aspects. Bon, il y en a un autre, là, un autre important. Ah oui, que tous les jours, ils améliorent leur pratique. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. En pratique. Et on s'améliore avec le temps. Les choses s'améliorent. Et si vous y pensez, chaque décision clinique que vous avez prise comprend un élément éthique, d'éthique. Parce que vous le faites pour le bien-être de votre patient. Et votre décision est façonnée autour de tout ce qu'il y a de bon dans cette situation-ci, pour ce patient-ci. Oui, alors, merci de votre beau travail, Frank. J'espère que nous allons améliorer notre jargon, notre vocabulaire. Et cette approche fondée sur les forces devrait engendrer un vocabulaire moral. Oui, et au-delà de cela, Sophie a été en mesure de changer de pratique, mais il y avait une nécessité d'un soutien plus large. Qui appuie ou qui aide les leaders? D'où vient ce soutien, cet appui, pour qu'ils puissent améliorer leur sort lorsqu'ils veulent avancer, mais que l'institution, l'établissement comme tel, fait du sabotage, se moque, les freine? Comment aller au-delà de notre petit rôle d'infirmière pour aller de l'avant de façon plus large? Donc, il y a au sein de l'établissement, évidemment, où les choses peuvent heurter, mais il y a des niveaux sociaux, le système de soins de santé. Et il y a tellement de couches, et ces couches ont une incidence les unes sur les autres. Et cela fait boule de neige. Et puis, bon, tout cela fait effet de cascade également. Et puis, voilà. Et cet effet cascade a des conséquences. Et comment? Alors, ils vont en amont et en aval. Et c'est ce mouvement constant entre ces différents niveaux, ces couches. Et il y a des sources d'obstacles à certains endroits. Et d'où viennent ces sources d'embûches? On parle d'une éthique sociale qui est nécessaire. J'aimerais en revenir à ce que Dr. Badeau disait sur l'éthique relationnelle, si on veut. Et est-ce qu'on parle de l'éthique au quotidien? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord et mes étudiants, je penserais d'accord avec moi. Mais si je vois un peu où en sont mes étudiants aujourd'hui, ils décrivent la situation comme suit. Il y a l'éthique bioéthique, etc., toutes sortes d'éthiques et des qualitatifs différents, mais les infirmières doivent participer à ces débats. Et du côté des soins infirmiers, c'est encore plus. On est un agent moral à l'intérieur d'une pratique. Ce que je n'ai pas réussi, et où nous, ce à quoi nous devrions nous déplacer, c'est de comprendre la recontextualisation de ces deux éléments. C'est pas d'un côté le relationnel et les problèmes, mais c'est les deux ensemble. Comment faire profiter ou mettre à profit cette façon de penser d'aval en amont, par exemple avec ce qui se passe au niveau de la Constitution au Québec, quel est le sujet dont on parle aujourd'hui, qui va donner l'injection, voilà la question que se posent les infirmiers et infirmières aujourd'hui. Mais nous devons mieux comprendre comment comprendre le rôle d'agent moral de ces infirmiers. À quoi cela ressemble-t-il dans un contexte où, par exemple, un patient cherche à mourir? Nous savons ce que cela veut dire. Nous avons une entente, une compréhension, une expérience de cette chose. Mais le débat n'aura pas lieu tant qu'on ne comprend pas le rapport entre l'éthique au quotidien et l'éthique au sens plus large. Et tout à fait d'accord, nous avons besoin des deux. Et nous devons éviter, comme la peste, je pense, toute forme de moralisation qui nous ramène à tout ce qui est narcissique plutôt. Les enseignants qui disent « Ah, j'ai joué un rôle modèle incroyable à cette époque-là ». Il faut aller au-delà. Il faut apprendre de nos pratiques. C'est pas tellement en rapport au développement de caractère, mais du bien-être des patients. Ça ne nous revient pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être du patient. Nous avons encore le temps de poser quelques questions. Merci beaucoup. Margaret Horton, Université McGill, dans le Center for Nursing Research à l'hôpital général juif. Bon, moi, évidemment, c'est la recherche qui m'intéresse. Et quelles sont les contributions de la recherche sur l'élaboration de cette science qui est représentée par les soins infirmiers fondés sur les forces? Bon, moi, je vais vous dire ceci, si vous me le permettez. Parce que lisez le livre. Je pense que ce qui ressort du livre est ceci. Voici comment vous y prenez. On parle de stratégies qui aident à bâtir les compétences dans le milieu des soins infirmiers fondés sur les forces. Voici comment éviter de ne vous pencher que sur ce qui est déficitaire. C'est ça qui m'a frappé. Parfois, je me perds dans le discours philosophique, mais voici comment vous faites. Voici comment vous y prendre. Et ça, c'est déjà incroyable. On ne peut pas lire le livre sans sortir et penser qu'il y a des choses très concrètes à faire pour y arriver. Je pense que le groupe de recherche va traiter mieux de cette question. Il commence à y penser. Il y a tellement de questions qu'il nous faut encore poser. Certains en ont posé de ces questions. Et on a besoin de preuves pour appuyer cette approche à tous les niveaux. Et il nous faut nous pencher sur chacune de ces valeurs et de voir comment chacune de ces valeurs sont réfléchies ou bien dans nos concepts ou notre perception donnée. Mais il faut aussi commencer à comprendre comment, à quel point il y a des perspectives biaisées. Je me souviens quelque chose qui m'a été dit. Bon, quelqu'un m'a demandé poser des questions sur une situation personnelle et est-ce que je portais le gène. Et là, on m'a dit, mais comment vous sentiez-vous quand vous avez découvert ça? Bon, les yeux bleus, bon, ce gène-ci, ce gène-là, les cheveux blonds, le nez droit. C'est qui je suis, ça fait partie de qui je suis. Ah, ça, elle a pas aimé ma réponse, la réponse que j'ai donnée à sa question. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez dit aux autres? Ces questions étaient tellement directes, mais tellement orientées sur le manquement. Donc, nous sommes biaisés, peu importe, dans notre conception, notre étude, notre perspective, l'interprétation des renseignements glanés, et ensuite, ce qu'on fait avec. Donc, il y a deux choses. Où nos recherches nous mènent, les questions que l'on pose, la meilleure approche, et quelle est la meilleure façon d'obtenir des réponses. Et la deuxième réponse, c'est qu'il y a tellement de choses à savoir. Il faut commencer à élaborer des façons pour mieux voir les preuves. Il y a beaucoup de preuves. Et il y a des silos d'informations, de renseignements. Il y a beaucoup de recherches sur la responsabilisation et son importance. Beaucoup de recherches sur le partenariat collaboratif, valeur par valeur, et l'importance de tout cela dans la vie des gens. Il y a beaucoup de choses. On commence à en savoir plus sur le sens subjectif et objectif, etc. On commence. Il y a beaucoup à faire encore. Il y a déjà beaucoup de faits. Également, on demande aux infirmières de créer certaines conditions. Par exemple, on cherche à faire la promotion de mécanismes de guérison innés. Mon mari et moi, commençons à travailler là-dessus. Il faut documenter tout ça et comment les infirmières jouent un rôle, aident, bâtissent des d'échafaudages en faveur de cette direction et que les patients deviennent des auto-guérisseurs. Voilà, c'est une question très large. La réponse doit être très large. Et au bout du compte, finalement, je ne suis sûre de rien. Nous vivons dans une ère de scepticisme, si on veut. On parle de bénéfices coûts, de tout ce qui est rationnel. Les gens toujours cherchent à obtenir ce qu'il y a de mieux pour eux, le meilleur deal. Il y avait une étudiante qui est venue me voir. Elle est venue me voir dans mon bureau, elle a rédigé quelque chose, et un patient lui avait dit d'emballer 7 cadeaux pour lui. Ce serait ses derniers cadeaux qu'il allait offrir aux 7 membres de sa famille. Ils lui ont demandé de faire ça. Dans son histoire, ce qu'elle racontait, elle a dit, je suis probablement une personne codépendante et j'aime bien les moments chaleureux et agréables, là. Je les recherche. Et voilà pourquoi j'ai fait cela. Je l'ai amené dans mon bureau. J'ai dit, quiconque dans la rue aurait dit qu'il s'agissait probablement d'un privilège sacré d'aider une personne à emballer 7 cadeaux à la fin de leur vie. Pourquoi êtes-vous si cynique? Elle dit, j'ai eu peur parce que vous êtes dans le domaine de l'éducation, que je croyais en altruisme et que j'en étais capable. Mais en fait, c'était ma propre réalisation, si on veut, qui est entrée en jeu. Alors, une très longue conversation, vous pouvez imaginer. Mais il y a ce cynisme au sein de la culture. Et parfois, nous semblons avoir oublié que la bonté, c'est du bon. C'est pas être moralisateur. Ça a bon goût, ça a bonne sensation. C'est bon. C'est tout bon. Il n'y a que du bon. Et c'est ce que nous tentons de ressaisir, si on veut. Et nous tentons de le réintroduire pas en tant que technique, ni même pas seulement en tant que théorie, vous m'excuserez, Roy, mais en tant que tradition de pratique de soins qui remonte jusqu'à Nightingale. Alors, il s'agit d'une tradition que nous tentons de reprendre des marges et intégrer au langage qui est entendu et parlé aujourd'hui. Et de raconter une histoire était une bonne façon de le faire, parce qu'il n'y a pas de quoi que ce soit de grandiose, d'idéalisé, mais c'est situé. Voici la chose concrète que j'ai faite et voici la réaction, la réponse obtenue suite aux agissements. Une approche menée par certains catalyseurs. Du point de vue philosophique, ça ne peut pas être une théorie mécanistique théorique. C'est une approche basée sur les valeurs. Et vous allez retourner dans vos pratiques, votre enseignement, à vos rôles de leadership, recherche, peu importe. On espère que vous aurez identifié davantage de valeurs, plus de nouvelles valeurs et ajouté constamment à ces valeurs. Donc, c'est quelque chose qui demeure ouvert, il doit être testé, vérifié, mis au banc d'essai pour voir ce qui fonctionne et ce qui doit être moussé, etc. Voilà, on parle d'ajout, mais ça reste ouvert. Claire, c'est vous qui allez entendre ou raconter la dernière question. Je m'appelle...
Du Centre universitaire de santé McGill et de l'Université McGill. Mais ce que j'aimerais qu'on aborde, c'est la question d'influence. On a dit que les infirmières sont très bien reconnues par le public et que le nombre, ici au Québec, on est plus que 70 000, et on ne semble pas avoir l'influence qu'on pourrait avoir. Ce que j'aimerais avoir vos idées, c'est quelles sont les forces de notre profession infirmière ici sur lesquelles on peut compter et s'appuyer pour influencer le cours des choses au Québec. Would you like me to clarify that for you?
Aimeriez-vous que je mette ça au clair, Laurie, davantage? Oui, j'aimerais ça. Oui, c'est ma partenaire. Je pensais que c'était que mon oui là qui avait lâché. Bon. Alors, Claire a joué un rôle vraiment très intéressant pour nous assurer que ce livre s'est traduit en français avec Sophie Baillargeant. Il travaille très fort pour s'assurer de l'intégrité de la traduction. Donc, évidemment, nous sommes très redevables à Claire et à Sophie lorsque la version française sortira au mois de mars. Voilà, mon petit topo. Alors, j'essaie de me souvenir quelquefois. Quelquefois, je dis des choses, mais j'oublie ce que j'ai dit, là. Ça m'arrive. J'aimerais en venir à cette question de l'influence, là, dont il a été question. Nous savons que le public apprécie, reconnaît les infirmières et leur rôle. On dépasse tout le monde. On est plus de 70 000 ici, dans la province. Et pour une raison ou une autre, nous n'exerçons pas le degré d'influence qui nous revient, dont nous aurions besoin. Quelles sont les forces associées à notre profession ici, donc, maintenant, dont nous pourrions profiter pour, justement, influencer? Peut-être qu'il nous faut définir des stratégies différentes pour exercer cette influence, parce que les méthodes utilisées n'ont pas vraiment été garantes d'un si grand succès. C'est la question que je vous pose et que je me pose. Quelles sont nos forces ici, à partir desquelles nous pouvons bâtir et à partir duquel nous pouvons puiser pour exercer une influence? Est-ce que je peux vous demander de mettre cette question de côté pour un autre 2h30? Parce que je pense franchement que Judith Chemin va traiter exactement de cette question. N'ai-je pas raison? Alors, au lieu de lui couper l'herbe sous les pieds, parce que je ne sais pas de quoi il va être question, mais ça va être fabuleux et très provocateur. Je pense qu'il y a des aspects de cette question qu'on va aborder. En tout cas, entre-temps, il y a une force qui est très évidente là, dans tous nos discours, parce que chacun parmi vous a donné des exemples. Ceci s'est vraiment passé. Il s'agit d'exemples concrets. Et ça, c'est une façon très percutante de créer une imagination pour ces soins infirmiers axés ou orientés sur les forces. Oui, et toutes ces preuves officieuses nous dit que même du point de vue économique, ça fait faire des économies incroyables. Le travail de Gina Brown le prouve. Il n'y a pas un langage qui s'appelle fondé sur les forces, mais l'approche est là. Si vous écoutez ce que font ces infirmiers dans ces études RCT, qui prouvent que ces infirmières jouent un rôle extraordinaire, font toute la différence. Ce type d'approche est incroyable. Et en plus, donne lieu à des économies incroyables. Donc, il va falloir mener d'autres études pour prouver que ce type de nursing fait toute la différence, par opposition à ces infirmières qui ne font qu'intervenir et qui sont des modèles de remplacement médicaux ou ce genre de choses. Alors, nous commençons à établir ces preuves, mais j'aimerais qu'on attende d'écouter les commentaires de Judith cet après-midi, après quoi nous pourrons continuer notre dialogue. Mais merci d'avoir entamé cette conversation, Claire. Merci de cette matinée très inspirante et merci à nos conférenciers invités. Quelques questions de cuisine interne. C'est l'heure du dîner. Vous allez donc vous asseoir où vous êtes. La nourriture viendra vers vous. Il y a de la soupe, le plat principal, le dessert et le café sera servi dans le foyer. Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez passer au foyer pour que les gens aient le temps de nettoyer la salle. On vous demande de quitter la salle et de prendre vos effets personnels avec vous. Ces séances d'atelier seront un étage plus bas, au 5e étage. Il y aura des gens qui seront là pour vous diriger. En arrière de votre cocarde, il y a un talon avec le nom de votre atelier au cas où vous aviez oublié à quel atelier vous êtes inscrit. On aimerait remercier les étudiants qui étaient là seulement ce matin. On leur souhaite bonne chance parce que ces gens doivent quitter. Également les participants sur le web. Et nous allons donc nous déconnecter pour l'heure du dîner et on se rebranchera l'après-midi. Merci de votre participation. Après les ateliers, nous reviendrons ici pour la pause et pour la dernière présentation de la journée. Et il y aura donc des tirages intéressants à la fin de la journée. Assurez-vous de bien remplir vos bulletins et de mettre vos petits papiers dans les boîtes du foyer. Donc, on parle de cette éducation
continue pour les infirmières avec 6 crédits CMI pour les infirmières. Merci.